Europe 1. Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Dans le premier épisode, Anne, la fille adultère de l'avocat et planteur William Cormack, a épousé le pirate James Bonny. Le couple s'installe à Nassau, la capitale de la République des pirates, où Anne commence sa carrière. Sur cette île des Bahamas, qui ressemble à une démocratie, elle tombe amoureuse de John Rackham et cherche à l'épouser alors que l'Angleterre envisage de mettre fin à l'âge d'or de la piraterie. Épisode 2. Ne pas mourir comme un chien. Nous sommes dans les mers caribéennes en février 1717. Le pirate Sam Bellamy poursuit depuis 3 jours le Ouida, un immense bateau commercial rapide et bien armé. Après son abordage, le navire sous pavillon anglais se rend avec ses cales remplies d'or, d'ivoire et d'esclaves. Comme à son habitude, Bellamy, que l'on surnomme parfois le prince des pirates pour son élégance, propose à toutes les personnes à bord de rejoindre son équipage dont ce bateau sera son nouveau navire amiral. Un petit garçon de 9 ans, nommé John King, s'avance vers lui, au grand dam de sa mère terrifiée. Il porte un beau costume et des bas de soie. Il regarde Bellamy et le supplie de le laisser devenir mousse. Il est fasciné par les histoires de pirates. Bellamy et ses acolytes éclatent de rire, mais le petit tient bon. Voilà John devenu le plus jeune pirate des Caraïbes. En Angleterre, la prise du Ouida affole tous les négriers et les armateurs. Les pirates sont devenus une telle nuisance dans les Caraïbes que beaucoup de capitaines rentrent au port dès qu'ils aperçoivent un pavillon noir. Le commerce est presque à l'arrêt et menace l'économie fragile de l'Empire. Le corsaire britannique Woods Rogers, célèbre chasseur de pirates et héros de la nation, est sollicité par les sociétés commerciales britanniques et le roi George Ier pour débarrasser les Caraïbes de l'engeance pirate. Woods Rogers connaît bien ses ennemis. Une grande balafre traverse son visage. Sa joue a été déchirée par un tir lors d'une attaque pirate quelques années auparavant. Avant de prendre les armes contre eux, il veut pousser une partie des pirates à prendre leur retraite. Il obtient donc du roi la promesse d'une amnistie proclamée le 5 septembre 1717 pour tous les pirates de Nassau qui mettraient fin à leur activité. Ils pourraient se retirer où bon leur semble avec leur butin. Le corsaire n'aurait plus ainsi qu'à se battre contre les derniers réfractaires. Dans un premier temps, Woods Rogers envoie un émissaire à Nassau chargé de proposer ce pacte aux pirates. Le capitaine Vincent Pierce rencontre les deux gouverneurs de la République, Hornigold et Jennings, en espérant leur faire accepter le pardon royal. Si ces deux vieux pirates se retirent, les autres imiteront leur exemple. Les deux chefs de la République des pirates ont une 40aine d'années. Ils sont prêts à mettre fin à leur activité. Hornigold retourne sa veste et devient chasseur de pirates pour le compte de Woods Rogers, alors que Jennings retourne sur ses plantations de Jamaïque couler une retraite heureuse. En revanche, la jeune génération de pirates n'a que faire du pardon royal. L'un des seconds de Jennings, Charles Vane, prend la tête des pirates insoumis. Devenu capitaine de sa flotte, il fait régner la terreur dans les Caraïbes en torturant les prisonniers des bateaux abordés. Calico Jack, l'amant d'Anne Bonny, fait partie de son équipage. Anne, quant à elle, temporise. Au mois de juillet 1718, presque un an après le début de sa mission pour le roi, Woods Rogers arrive à Nassau. Après une bataille épique contre Charles Vane, il prend possession de la ville et s'impose comme nouveau gouverneur. Anne se rapproche de Woods Rogers et, suivant l'exemple de son mari, lui donne des informations pour débusquer les pirates rebelles. Elle essaye ainsi de protéger son amant et de lui laisser du temps pour exécuter leur plan secret. Certains pirates retraités se sont quant à eux engagés dans une dernière mission lucrative et peu risquée. Il longe la côte des Amériques vers le nord, en direction du Cap Cod, où le célèbre Ouida, le bateau du pirate Sam Bellamy, a sombré à cause d'une tempête alors qu'il allait rejoindre son aimé. Le bateau contenait les trésors d'une cinquantaine de navires pillés. Tout l'équipage, à l'exception de deux hommes retrouvés par la maréchaussée et pendus, avait péri dans le naufrage, y compris John King, le plus jeune pirate de l'histoire, dont le petit corps gisait au lendemain de la tempête sur la plage. Il portait encore ses bas de soie. D'autres pirates, à l'instar de Barbe Noire, cherchent un moyen légal de continuer leur activité. Rongé par la syphilis, le pirate tient à pouvoir se fournir en mercure chez les apothicaires de la côte sans se retrouver pendu à une potence par les forces de l'ordre. Ce métal toxique passe alors pour un remède contre cette maladie sexuelle qui ravage autant son corps que sa santé mentale. Plutôt que d'accepter le pardon royal, il préfère négocier avec Charles Eden, le gouverneur de Caroline du Nord, et devenir corsaire pour le compte de cette colonie. Cet accord aurait été scellé entre le politicien et le pirate en échange d'esclaves fournis par Barbe Noire. Il aurait donc cédé sans aucun remords ceux de son propre équipage. Mais les années corsaires de Barbe Noire ne durent pas bien longtemps. Il reste un homme recherché par les chasseurs de pirates officiels mandatés par la couronne britannique. Le 22 novembre 1718, après une dernière bataille nocturne épique, Barbe Noire est décapité par le lieutenant Robert Ménard. L'officier de la Royal Navy a ensuite sillonné les mers des Caraïbes avec la tête du célèbre pirate attaché à la proue de son navire en guise de trophée. Dans l'ancienne République des pirates, la tension monte. Il apparaît évident qu'il faut se ranger pour éviter la peine de mort. Ceux qui continuent leur œuvre, comme Charles Vane et son équipage, sont de plus en plus violents. Fatigué de son sadisme et étonné de le voir refuser l'attaque d'un bateau français, ses marins organisent un vote pour le destituer de ses fonctions de capitaine en faveur de Calico Jack, l'amant d'Anne Bonny. Abandonné par sa flotte, Charles Vane, celui qu'on surnomme la terreur des mers, est arrêté. Il sera pendu à Port-Royal, en Jamaïque, en 1721. Nous sommes à l'automne 1718. Calico Jack rentre en capitaine à Nassau et retrouve Anne. Il est désormais assez riche pour la racheter symboliquement à son mari, James Bonny. Mais James refuse de céder sa femme et la dénonce pour adultère à Woods Rogers. Conformément à la loi, le gouverneur britannique aurait condamné Anne à la flagellation. À la suite de cet événement, elle rejoint le bateau de Calico Jack comme membre de son équipage. Elle est maintenant sa compagne officielle. Elle s'épanouit dans cette vie de hors-la-loi, mais elle va être obligée de mettre sa carrière entre parenthèses. Le ventre d'Anne s'arrondit à vue d'œil. Calico Jack interrompt ses affaires à Cuba le temps que sa compagne accouche d'un petit garçon, puis les affaires reprennent. Anne est une pirate particulièrement redoutable. À l'instar de Jennings, son ancien mentor, elle a le goût de la violence, comme le raconte une de ses prisonnières pendant un abordage. Dorothy Thomas, une femme en route vers le Nouveau Monde, voyage sur un bateau abordé par la flotte de Calico Jack. Les émules de Jennings et anciens compagnons de Vane n'ont pas l'élégance d'un bel ami ou la probité d'un Hornigold qui refuse de faire du mal à leurs otages. L'équipage de Calico Jack n'hésite pas à frapper les passagers et à torturer le capitaine pour leur extorquer la moindre piécette. La passagère Dorothy Thomas est horrifiée de voir une femme parmi les pirates. Le plus terrible, c'est qu'Anne n'a aucune compassion pour les autres femmes. Elle pousse ses camarades à tuer la prisonnière. Heureusement, ses compagnons y renoncent et Dorothy peut regagner la terre ferme où son récit contribuera à forger la légende noire d'Anne Bonny. À l'été 1720, Anne a alors 23 ans et son amant Calico Jack recrute un nouveau marin, Mark Reed. Il faisait partie de ceux qui avaient accepté le pardon royal 2 ans auparavant, mais que l'appât du gain et le goût de l'aventure avaient fait refluer vers la mer. Mark Reed participe au vol d'un bateau, le William, aux côtés de Calico Jack et d'Anne Bonny dans la rade de Nassau. La prise de ce voilier militaire leur vaut une condamnation à mort de Woods Rogers. Le gouverneur lance les corsaires Jonathan Barnett et Jean Bonadvis à leur trousse. À bord du William, Anne est troublée par Mark Reed. Quelque chose chez ce pirate l'interpelle. Convaincu de plaire à la femme du capitaine, le pirate entraîne Anne dans un coin du navire pour s'entretenir avec elle. Sur le pont, les rumeurs vont bon train. Anne aurait une liaison avec Mark. Pris de jalousie, Calico Jack demande des comptes à Anne. Les explications de sa femme apaisent immédiatement sa jalousie. En réalité, Mark s'appelle Marie. Sa mère était une pauvre Anglaise qui ne savait pas très bien si le père de sa fille était son mari marin mort en mer ou son amant. Sa grande pauvreté l'a poussée à habiller Marie en garçon dès l'âge de 10 ans pour qu'elle puisse faire des petits travaux et rapporter de l'argent à la maison. Marie, qui se fait alors appeler Mark, prend goût à la liberté masculine. Elle parvient même à se faire embaucher dans l'armée comme soldat pendant la guerre de succession d'Espagne. Sur le front, elle tombe amoureuse d'un soldat hollandais à qui elle révèle la vérité sur son identité. Le couple se marie à la fin du conflit, mais le temps des jupons est de courte durée. Prématurément veuve, Marie redevient Mark et intègre l'armée hollandaise grâce à laquelle elle s'embarque vers le Nouveau Monde. Son bateau est abordé par des pirates. Quand ceux-ci demandent à l'équipage qui souhaite rejoindre leur rang, Mark se porte volontaire. Voilà comment il s'était retrouvé à Nassau, puis sur le bateau de Calico Jack. Débarrassé de son mensonge, Mark s'autorise à devenir la pirate Marie Reed. Elle laisse désormais sa chemise ouverte sur sa poitrine, comme Anne Bonny, pour intimider les hommes pendant les combats. Le 31 octobre 1720, le bateau de Calico Jack a plongé l'ancre tout près de Negril, à l'ouest de la Jamaïque. Les pirates ont décidé de prendre du bon temps après une série d'abordages réussis. Tout l'équipage est ivre. Plusieurs hommes sont assis à terre entre les bouteilles de rhum vide. Anne et Marie sont éméchées mais gardent les idées relativement claires. Ce sont peut-être elles qui voient un bateau arriver vers le William, toute lumière éteinte dans la nuit noire. Un coup de feu est tiré dans leur direction depuis ce navire. Un autre surgit derrière lui. Il s'agit des deux voiliers des corsaires Jonathan Barnett et Jean Bonadvis, envoyés par Woods Roger pour arrêter Calico Jack et son équipage. Sur le point d'aborder le William, Jonathan Barnett somme les pirates de décliner leur identité. Calico Jack dégrise instantanément. Il crie qu'il est John Rackham de Cuba. Il n'y a aucun moyen de fuir. Il va falloir se battre. Les hommes qui tiennent encore debout secouent les autres. Certains pirates, trop ivres pour tenir une épée, tentent de se trouver une cachette. Quand les hommes de Barnett montent à bord, ils sont accueillis par quelques pirates encore aptes au combat, ainsi que par Anne et Marie. Les deux femmes insultent les pirates qui se sont cachés pour échapper aux corsaires qui viennent les arrêter. À elles deux, elles parviennent à les tenir en respect plusieurs minutes. Anne Bonny et Marie Reed sont les dernières à se faire arrêter. Les pirates de Calico Jack sont tous incarcérés à Fort Charles, en Jamaïque. Au moment de leur procès, ils sont tous condamnés à mort par pendaison. Anne et Marie obtiennent un délai. Elles ont affirmé au juge qu'elles étaient enceintes et la loi interdit alors de tuer un être qui n'est pas encore né. En passant devant la cellule de Rackham, Anne s'arrête un instant. Son visage est déformé par le mépris. Elle lui dit que s'il s'était battu comme un homme, il ne mourrait pas comme un chien. Calico Jack est pendu le 18 novembre 1720. Marie Reed, quant à elle, meurt dans sa cellule le 28 avril 1721. On ignore si elle a été emportée par une fièvre puerpérale ou par une infection. Le sort d'Anne est plus complexe. Elle quitte la prison et s'évanouit dans la nature. Certains racontent que son père aurait payé pour sa libération. Elle serait rentrée en Caroline où elle aurait mené une vie rangée avant de mourir en 1782 à l'âge de 85 ans. Selon d'autres, elle serait morte en Jamaïque le 29 décembre 1733, comme le laisse penser une pierre tombale au nom d'une certaine Anne Bonny. C'est la fin de ce récit en deux parties consacré à Anne Bonny et l'âge d'or de la piraterie. Merci de l'avoir écouté. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec Sébastien Guidis. Kelly Decroix est chargée de la communication et Héloïse Bertil de la diffusion. Sidonie Mangin a créé la nouvelle identité visuelle d'Au cœur de l'Histoire. Si vous avez aimé cette histoire, laissez-nous des étoiles. À bientôt.